Je vais parler en polonais ce matin. C'est pasteur Colossiens chapitre 1, s'il vous plaît. C'est pasteur Mike Stevens, pasteur en Équateur, dans la ville de Guayaquil. Colossiens chapitre 1, verset 9 commence avec ces paroles. Pour cette cause, nous aussi depuis le jour, la prière était très importante pour Jésus-Christ. Très souvent, il s'éloignait de la multitude pour prier. Il avait une opportunité légitime pour administrer envers les gens, mais il enseignait beaucoup à propos de la prière. Il enseignait plus sur la prière que sur l'enseignement ou la prédication. Pour Paul, la prière était une passion. Ce n'était pas une obligation religieuse, ce n'était pas un devoir, ce n'était pas une tradition. C'était une expression naturelle avec sa relation intime avec Jésus-Christ. Quel privilège on a aujourd'hui en tant que croyant sacrificateur, activement et de littéralement participer avec Jésus-Christ et son ministère de prière pour l'Église aujourd'hui. Un prêtre représente Dieu devant les hommes. Et les hommes devant Dieu. On va pour les autres, pour on représente les autres devant Dieu avec nos requêtes. Nous savons que dans la parole de Dieu, on trouve l'expression, les pensées de Dieu. La prière par Paul, on peut être assuré que nous regardons et que nous entendons et que l'on lit les pensées de Dieu et les prières de Jésus-Christ. C'est l'expression des pensées de Dieu à propos de la prière. Colossiens chapitre 1, en lisant ça, Paul a entendu quelque chose à propos des Colossiens qui l'a motivé, lui, de prier. On peut penser, est-ce que quelqu'un a besoin d'être guéri, s'il y a eu un accident, quelqu'un a besoin d'un boulot? Quelqu'un était dans une circonstance très inconfortable ou une épreuve, alors qu'on regarde dans les versets avant, dans Colossiens 1, les Colossiens, au verset 2, il est dit, ils étaient fidèles. Paul a entendu qu'ils étaient fidèles. Au verset 4, ils vivaient dans la foi. Ils vivaient dans l'amour l'un pour l'autre aussi. Et au verset 6, il y avait beaucoup de fruits qui étaient produits. Ils portent des fruits dans leur vie. Paul était motivé de prier pour eux parce qu'il se passait de bonnes choses spirituellement. Il n'y avait pas de problème, de difficultés ou des problèmes graves. Ils grandissaient, tout se passait bien, Dieu les utilisait. Et ça le motivait, ça motivait Paul de prier pour eux. Ça devrait être une motivation pour nous de prier pour les autres aussi. Paul dit qu'il n'a pas cessé de prier Dieu pour eux. C'était continuel, une communication continuelle qui résultait en prière. Il y a un exemple de ça dans Néhémie chapitre 2. L'esclave, Néhémie, est devant le roi. Et le roi lui demande, quelle est ta pétition, ta requête? Qu'est-ce que tu veux, ta requête? Les Écritures nous disent que Néhémie a prié avant de répondre. Je ne peux pas imaginer qu'il est tombé sur ses genoux devant le roi. Il n'a sûrement pas dit au roi, « Excuse-moi, je dois jeûner avant de demander la prière ou de recevoir de Dieu. » C'est l'esclave devant le roi, il devait donner une réponse. À cause de sa communion avec Dieu, dans un instant, dans son attitude mentale, dans sa pensée, il a communiqué avec Dieu et il était capable de répondre au roi. Après une prière d'un certain moment, on peut prier sans cesse. Un moment de stress, un moment de pression, Mais tellement conscient de sa relation avec Dieu, il pouvait prier avant de répondre. Je pense que vous serez d'accord avec moi que de prier sans cesse demande d'avoir une attitude continuelle de la conscience de Dieu. Et une attitude aussi d'être conscient des gens. On voit les besoins de personnes et immédiatement on pense à Dieu. Quand c'est celui qui va rencontrer ce besoin-là, ça demande une attitude d'amour, avec un Dieu vivant et une attitude d'amour qui prend soin des autres aussi. La requête de prière est ceci, et c'est formidable ça. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Lorsque les Écritures nous parlent d'être remplis de quelque chose, ça parle d'avoir une abondance, ce qui domine ta vie, qui contrôle. Peut-être, vous avez eu des gens qui vous ont dit, déjà, tu es plein d'eux, et vous pouvez remplir le vide. Lorsque tu es un enfant, tes parents te disent, tu es plein de, tu fais des mauvaises choses. J'ai pas compris le mot qu'il a dit, mais c'est quelque chose de pas bon. Les parents disent aux enfants, un parent dit à son enfant, tu es plein du diable, tu es rempli. Mais les Écritures nous disent, des fois, tu es rempli de crainte. La crainte domine ou contrôle ta vie à ce moment-là. Tu ne peux pas penser ou rationaliser en dehors de la crainte, ou tu es rempli de colère. Ça domine ton être complet à ce moment-là. Ou tu peux être rempli d'amour afin que l'amour est exprimé par ta personne, rempli de joie. Le problème vient, et la joie domine ma vie. C'est basé sur une relation avec Dieu qui ne change pas. C'est ce qui est révélé dans ma vie. Ou bien rempli du Saint-Esprit. Donc, il contrôle et domine la vie elle-même. La demande ici, c'est que le croyant soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Ou tu peux dire, connaissant les pensées de Dieu, que les membres de l'Église de Dieu connaîtraient les pensées de Dieu et vivraient en accord avec ces pensées.
It means a deep and complete knowledge,
profondément dans la connaissance complète, une connaissance qui vient des Écritures, de la doctrine, de ce qu'on a appris des pensées de Dieu. On sait que sans la connaissance, on a une tendance d'être susceptible à des choses fausses. Sans la connaissance, on peut être détruit. La demande ici, c'est que l'on connaisse les pensées de Dieu dans une abondance telle que ça contrôle nos vies. Les circonstances ne contrôlent pas nos vies. La façon dont les autres nous reçoivent ne contrôle pas nos vies. Mais les pensées de Dieu contrôlent nos vies. Cette connaissance est une connaissance qui est en toute sagesse et en connaissance et compréhension spirituelle, d'avoir la capacité d'organiser précisément et d'appliquer dans chaque jour les circonstances quotidiennes les pensées de Dieu qui nous remplissent. Ce n'est pas juste une théorie ou juste une doctrine, c'est quelque chose qui a une application pratique dans nos vies. Amen.
Wow, this is so big.
C'est Pasteur De Vries, Corée du Sud, Séoul. C'est grand. grand dans la plateforme, ça me rend insécure. Je vais introduire aussi quelqu'un qui visite de la Corée aussi, avec ici ses deux fils, une dame. Salutations de notre église en Corée. On a une œuvre de Dieu qui se passe là-bas. C'est un grand privilège d'être ici pour la conférence. Merci, Pasteur Schaller. J'ai un verset. Psaume 119. Si vous avez vos Bibles. Psaume 119. Verset 25. Il est dit ceci. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Prions. Père, nous te demandons que tu bénisses ta parole à nos cœurs maintenant. Parle-nous par ton esprit. Parle au-delà des paroles que je vais parler. Nous te demandons que tu nous encourages aujourd'hui dans ce thème de penser avec Dieu en priant au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le thème c'est penser avec Dieu en référence à l'Église. En référence à l'Église, penser avec Dieu. Je pensais à ça. Est-ce qu'il y en a d'entre vous ici? Pensez avec Dieu dans les situations. Est-ce que vous pensez que c'est automatique, c'est facile, ça se passe automatiquement? J'ai trouvé, moi, je me suis aperçu de l'autre expérience. Ce qui se passe, je pense avec la poussière. J'aime cette pensée aujourd'hui de penser avec Dieu. Ça a quelque chose à voir avec s'attacher. S'attacher. S'attacher, s'accrocher à quelque chose. Naturellement, je m'attache à la poussière, ma pensée, mon âme, mes émotions. C'est ce qui est automatique pour moi. Spécialement dans les situations, une épreuve vient, même l'Église, dans le corps précieux de Christ. Penser avec Dieu, c'est tellement plus que de juste que de connaître le bon et le mauvais, le droit, ce qui est correct et ce qui est incorrect, la bonne pensée correcte de penser ou les mauvaises pensées qu'on ne pas penser. C'est plus que ça. En soi-même, ça va venir peut-être juste, ça s'applique à la lettre. Parfois, je peux administrer la mort. Si je pense ou si je parle de ce que je connais déjà, c'est juste, c'est correct ou c'est faux. Mais je m'identifie avec ces paroles ici dans l'absence. Dieu, maintenant, je reconnais comme mon âme mes pensées. Je m'attache à la poussière. Je me sens que je suis attaché. Je suis comme une boîte de Coca-Cola, une canne de Coca-Cola, comme on a entendu hier soir. Dieu, vivifie-moi. Rends-moi la vie maintenant dans cette situation, dans cette épreuve, dans cette projection ici. J'ai besoin de toi. Vivifie-moi. Donne-moi ta pensée. Maintenant, tu dois me parler au-delà de ce que j'ai déjà appris. Tu dois me parler maintenant dans la situation. J'ai besoin d'un réma, d'être vivifié. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de tes paroles. Et Dieu, aide-moi à fermer ma bouche jusqu'à ce que toi tu parles. Aide-moi. De penser à ce sujet, de penser avec Dieu, ce n'est pas une activité passive. Ce n'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Il y a du travail avec ça. On reçoit de Dieu, mais ce n'est pas passif. On est activement, on reçoit activement de Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi. Activement, parle-moi. Il y a deux côtés de ça dans l'Église, dans le corps de Christ. Un, c'est de rejeter les pensées qui ne sont pas de Dieu, d'essuyer la poussière de tes pieds des gens qui ont rejeté dans le village là, où on évangélise des fois. Une partie de ton message, je pensais que tu allais aller là-bas, dans ce message, tu allais les moustiques, la boîte de Coca-Cola, et de l'autre côté, les plaques électriques. Je pense, et moi je pensais à autre chose, c'est que les moustiques vont sur la plaque électrique, et les démons tombent, et les projections tombent. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier avec ça, à la ferme là où on est. On a des plaques électriques, quand les moustiques viennent, ils sont attirés par ça, et parce que je suis dans la vie de Dieu, et je sais que Dieu me vivifie. Ces pensées démoniaques viennent sur cette plaque électrique, et elles sont électrocutées complètement. La parole de Dieu nous protège et nous vivifie. Et dans l'humilité, on reçoit ces pensées. Précisément, j'aime le rap hier soir, les pensées sur le vocabulaire. Je dois penser avec un vocabulaire précis. Et Dieu nous donne ça. Et nous pourvoit. Il y a le rejeter, le fait qu'on rejette. Les pensées qui sont électrocutées, qui ne sont pas de Dieu, qui sont abattues. Et il y a ce qu'on reçoit. J'ai besoin de toi. J'ai faim, j'ai besoin de ta parole aujourd'hui. Si tu ne me parles pas, je vais être attaché à la poussière. Si tu ne me parles pas, je pense avec le monde. Je ne vais pas penser avec toi. Dieu, parle-moi maintenant. J'aime ça dans le corps de Christ. Dieu fait ça dans l'Église. Chaque joint qui supplie, qui pourvoit tout ça. Et Dieu administre envers nous, on reçoit de lui et on administre les pensées de Dieu les uns aux autres. Penser avec Dieu, c'est un exercice. C'est un exercice, une pratique, la piété, la discipline, chaque jour, quotidiennement. Amen. On va souhaiter la bienvenue à Pasteur Mati, missionnaire à Istanbul, en Turquie. J'aime cette introduction.
Seigneur,
nous sommes dans ta présence. Et ça, ça a changé nos vies. Ça continue à changer nos vies. On est enthousiaste. L'expérience d'être capable d'être dans ta présence et de ne pas être consumé. On peut même penser avec toi.
And that you invite us to think with
tu nous invites à penser avec toi.
You include us
in tu nous inclus dans ça.
Isn't that what worship is? Isn't that what
l'adoration.
Walk in the spirit is?
On marche dans l'esprit.
We long to fellowship with you and
et on languit d'avoir communion avec toi et de voir les uns les autres.
To see you manifest in the church.
De te voir manifester dans l'Église.
Thank you for the church.
Merci pour l'Église. Donne-nous tes pensées à propos de l'Église. Quotidiennement. Dans ton nom, Amen. C'est incroyable quand notre façon de penser peut être fausse. On pense forcément tellement souvent, on n'a pas besoin de lire rien, d'entendre rien, on a juste besoin d'exister et on est tellement tort souvent. C'est tellement effrayant. Comment on peut être chrétien dans ce monde?
Et
Jésus dit, Il nous donnera le Saint-Esprit. Dans Jean 14, 26, le Saint-Esprit va nous rappeler les choses qu'il nous a enseignées. En dehors du ministère du Saint-Esprit, l'Église serait un endroit horrible de venir. Ça serait rempli de gens qui penseraient faussement et on aurait des relations fausses les uns avec les autres, incorrectes. On ferait des erreurs, on se blâmerait les uns les autres, on s'accuserait l'un l'autre. C'est intéressant de planter les églises. On commence avec rien. On commence à planter une église, implanter. Les gens viennent comme ils sont. Ils n'ont pas de concept spirituel, aucun comportement spirituel. J'étais dans des situations où les gens, ils commencent à parler mal de toi, des mots des anciens jours. Les gens commencent à se battre avec le traducteur, l'interpréteur. Avec le traducteur sur les paroles, je commence à avoir des problèmes. Et je commence à prêcher là. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire d'être une personne spirituelle. Les gens viennent naturellement, on peut être si incorrect. Le Saint-Esprit nous parle à propos de l'Église. Je vais partager quelques pensées qui sont importantes pour moi en tant que pasteur. Un pasteur, c'est facile d'être en colère à l'Église et condamner les gens. Pourquoi ils ne grandissent pas? Pourquoi ils ne changent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas comme ils sont supposés de venir à l'église aussi souvent? Pourquoi est-ce qu'ils n'apprennent pas? Mais cette année passée, j'ai appris ça, que Dieu n'est pas en colère avec l'église. Dieu n'est pas déçu avec l'église. Éphésiens 5, 25. Paul compare l'Église avec l'époux et l'épouse. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? En se donnant complètement pour elle. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est l'Église glorieuse. Et Dieu est amoureux avec son Église. Il va être marié avec l'Église, en fait. Pourquoi ne serait-il pas enthousiaste à propos de ça? Il est enthousiaste, vraiment, lorsqu'il pense à propos de son Église. Un des arguments principaux que Satan vient contre Dieu et contre le dessein de Dieu, c'est qu'il parlerait à Dieu en blâmant l'Église et en disant que l'Église ne serait pas une bonne femme pour Dieu. Pouvez-vous identifier avec ça? Je suis sûr que Satan a ça dans son vocabulaire. Que son peuple, tu vas planifier d'être avec ces gens pour toujours, pour l'éternité? Quelle erreur. Mauvais choix. Satan accuse et donne le conseil, mais Dieu voit l'Église comme elle est. C'est son travail, son œuvre, son chef-d'œuvre. Pour nous, la plupart de l'Église, c'est invisible dans le monde entier. La véritable Église est invisible, le monde ne peut pas voir. Les yeux n'ont pas vu et les oreilles n'ont pas entendu ce que Dieu a préparé. 1 Corinthiens 2, 9. C'est ce que l'Église est, invisible. J'aime cette idée. Tu peux arrêter tout extérieurement, tu peux détruire les bâtiments, l'organisation, tu peux arrêter tout. J'ai vu ça avec des gouvernements impieux, impies, qui ont essayé d'arrêter notre œuvre. Mais c'est ridicule. parce qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas l'Église, ça. Ils pensent qu'ils ferment la porte. Ils pensent qu'ils détruisent l'Église. On est de l'autre côté de la porte aussi. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas l'Église, ça. L'Église est plus grande. L'Église est invisible. C'est le mystère de Dieu dans ce monde et on en fait partie. Nous. On ne comprend pas nous-mêmes combien on en fait partie. Mais nous sommes, on est si heureux et tellement reconnaissant à Dieu que Dieu nous ait choisi d'être son Église. Je me rappelle à Lennox, Pasteur Schaller, avant qu'on parte, tu as dit dans ton message, Satan pensait que l'Église était un morceau de propriété il y a 20 ans quand on a quitté Lennox. Il avait tort. On voit ça aujourd'hui aussi. Les choses qui sont visibles, les choses que les gens parlent, qui touchent, qui comparent, qu'ils essayent de comprendre, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est incroyable. L'Église est belle. Sans tâche. Et nous sommes cette Église. Et on apprend de penser de cette façon-là avec l'Église comme Dieu pense. Amen. Pasteur Thomas Schaller va prêcher maintenant. C'était des portions incroyables, n'est-ce pas?
Touching our hearts.
Toucher nos cœurs.
Just for a few minutes.
Juste pour quelques minutes.
Turn to
tourner
Psalm 13,
dans le psaume chapitre 13. Ouvrez vos Bibles.
I feel that yesterday was
je me sens que hier, on a eu un bon culte le soir, spécialement que Pasteur Stevens, il n'a pas été devant la congrégation, ça fait 3 ans. Hier soir, c'était... Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que Pasteur était vraiment là hier soir? Ça s'est vraiment passé? C'était un temps doux. Je me sens comme ça à propos du ministère en général. L'amour et la relaxation, le visage et la vision et la pensée qu'on a entendue dans les paroles de Pasteur Mike sur la prière. Dans ma propre vie, j'ai un petit réveil de prière, donc j'aime écouter sur ce sujet de ça là. Et la portion de Pasteur Steve DeVries aussi, d'être vivifié. Combien on est unique. Et Pasteur Matty, je me rappelle, c'était... Je crois que je me rappelle qui c'était l'interpréteur avec qui il y a eu cette petite bataille d'interpréter les paroles, les mots différents. En Hongrie, on a dû faire une règle au début. Dans les raps, tu ne peux rien dire à moins que tu aies un verset biblique. Tout d'un coup, tout le monde regarde. Ils ne connaissaient pas trop la Bible. Ils ne pouvaient rien dire. Il y avait beaucoup d'opinions, beaucoup de sentiments, d'émotions. Il y avait beaucoup de petites batailles. Tu ne peux pas frapper les gens. Non, ça n'a pas été aussi loin que ça. Parfois, c'était devenu un peu chaud. Psaume chapitre 13. Un bon verset pour nous, verset 2. Jusqu'à quand? Ok, verset 3 dans ma Bible en français. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Chaque jour, des gens dans leur vie, ils ont des... Nous, on est prédicateurs et pasteurs ici. Parfois, les concepts deviennent simples et même notre vocabulaire, des clichés qu'on utilise. Mais d'avoir de la douleur et des troubles dans ta vie et des chagrins, tu ne peux même pas en parler parfois. C'est réel pour les gens, c'est véritable, c'est vrai. Parfois, au verset 3, jusqu'à quand, il est dit en anglais, bon, je vais prendre du conseil dans mon âme. Mon âme va me conseiller. Il y a le sens ici. Je ne peux pas changer, je ne veux pas être guéri. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Lorsque les gens viennent ici, au-delà de nos paroles, ils s'assoient dans une assemblée remplie de l'esprit. Mon église est dans Cincinnati, dans l'État d'Ohio, ou dans un autre pays étranger, ou en Philadelphie, Pasteur Marc. Les gens viennent. C'est notre prière qu'ils vont changer de prendre conseil dans leur propre âme et d'avoir des chagrins chaque jour. Ils vont trouver le Christ puissant et vivant. Les pensées et le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, où il y a une fabrique qui est cousue tout ensemble dans mon cœur nouveau et de la doctrine qui est capable de me délivrer. Pasteur Mati a dit, Dieu nous aime. Est-ce qu'il nous aime ou pas? Éphésiens 5, il dit, comme Christ a aimé l'Église. Hommes, aimez vos femmes. L'amour, Osée 2.19, dans ma fidélité, je t'ai fiancé et dans ma justice. L'amour de Dieu pour les gens, le message du salut, le Christ qui est ressuscité, les prédicateurs de Dieu dans le monde, les membres du Christ, le Saint-Esprit de Dieu et le message. Venez, s'il vous plaît. Et on dit ça aux gens nouveaux, on leur dit, venez sept fois. Continuez de venir. J'ai rencontré quelqu'un à la porte, dimanche dernier. Ils ont dit, c'est mon quatrième fois que je viens. J'ai dit, tu as trois fois à venir encore. Après ça, tu peux prendre ta propre décision. Quelqu'un, j'ai dit, c'est mon deuxième fois que je viens. Quelqu'un dit, c'est ma septième fois que je viens. Ils aiment venir ici, en fait, actuellement. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Il y a des choses enracinées dans nos âmes qui, ça prend du temps d'être déracinées. C'est quoi le mot là? Voilà. Goliath, il avait une lance qui était vraiment spéciale. Et les mauvaises habitudes dans nos vies, les convoitises, je me sens que dans nos assemblées locales, on a des... Est-ce que tu as fait attention que dans les églises évangéliques aux États-Unis, ils changent de se rassembler plusieurs fois par semaine, maintenant c'est une fois par semaine, des églises majeures. Nous, on a 3, 4, 5. Sunday, on a 3 cultes. Mercredi, on en a 1. Et au travers la semaine, comme vous savez, qu'on se rassemble, les croyants ont besoin de grandes doses de cet enseignement et de cette doctrine. On a besoin, on dit, nous, qu'on a besoin d'une heure de doctrine par jour. les cultes à l'Internet. Si vous allez dans la librairie, là où ils vendent les livres, tu peux taper les mots. C'est incroyable, tu peux. Il y a un ordinateur, tu tapes un mot et ça va te dire là dans quel livret c'est le pasteur Sivan. La volonté libre, le libre arbitre, la grâce. Des phrases que tu as entendues dans le ministère, tu veux regarder dans le livret. C'est un rend ce service, là, c'est formidable. Tous ces outils et nos Bibles et nos grands livres que l'on lit des hommes de Dieu au travers de l'histoire, la théologie, notre adoration, notre foi. On n'est pas uniquement des auditeurs, mais aussi en pratique. Seigneur, nous délivre. Il est dit ici dans le psaume, combien de temps je vais prendre conseil dans mon âme et d'avoir du chagrin dans mon âme quotidiennement jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? C'est la prière de David, un homme de Dieu. Et sa prière, ça peut être une prière pour nous aussi. De notre côté, on s'édifie nous-mêmes. Nous développons dans nos pensées une façon de digérer et de se relier à la vie d'être. La doctrine, c'est comment on voit et comment on perçoit le monde autour de nous. La foi est d'être rempli par le Saint-Esprit. Cette plaque électrique qui est de Dieu, qui est sur le vocabulaire qui est dans mon âme, qui nous donne la vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Si nous, en tant que pasteurs, je pense aux pasteurs ici et les gens d'endroits différents. Si on peut nourrir le troupeau, si les gens peuvent être édifiés dans la foi, si les gens peuvent être attirés par un investissement personnel et des rapports, si on peut prier les uns pour les autres, si on peut conduire les uns les autres dans notre foi la plus sainte, dans nos pensées, dans nos cœurs, on va savoir que Dieu nous aime. Par Christ, on peut tout faire. Et on est capable. C'est une œuvre de Dieu incroyable. Absolument incroyable. Et on n'est pas honteux. Et dernièrement, finalement, ne pensez-vous pas, au lieu de courir ou de se battre, le psychologiste appelle ça, tu t'enfuis ou tu te bats. L'adrénaline, c'est une hormone dans ton corps. L'adrénaline, tu t'enfuis ou bien tu vas te battre. Il y a une troisième possibilité pour nous, c'est flotter. Ne t'enfuis pas, ne te bats pas, mais ce que Noah a fait, il a flotté. Il a flotté. C'est Dieu et notre défense. Dieu est la réponse. Lorsqu'on a nos troubles, au lieu de se battre ou de s'enfuir, tu demeures et tu flottes dans l'arche que Dieu a préparée pour toi. La doctrine dans l'âme. Je sais qu'on peut être émotionnel, on peut être en colère. On peut penser pauvrement de nous-mêmes. On peut s'éloigner des responsabilités. Je sais aussi que par la doctrine, on peut courir au travers d'une troupe, sauter par-dessus un mur, flotter en Dieu et dire « Dieu fait ce grand œuvre de Dieu ». On pense avec Dieu. Moïse est allé dans le désert avec ces gens. Il aurait pu s'enfuir ou il aurait pu se battre avec eux. Mais au lieu de ça, il était calme et il flottait pendant 40 années. Il est dirigé dans le chemin de Dieu avec la doctrine dans son âme. Dans ta famille, tu peux t'enfuir ou tu peux te battre. Ou en Dieu, on peut administrer et être une réponse. Acte chapitre 16. Paul était en prison. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées et il est parti. Paul, il aurait pu s'enfuir de là, mais il est resté, et dans le ministère qu'il avait, il a amené le geôlier au Seigneur. Ne te bats pas avec ta femme. Dans ton cœur, dis, je flotte. Je flotte. Dieu a une façon ici. Dieu a une façon ici. Mes paroles sont très peu. Mon amour est réel. La sagesse viendra dans nos cœurs, nos adolescents. La pensée de Christ, l'Esprit de Dieu, le nouveau cœur et le ministère de Christ. C'est comme ça que l'on vit. Dans notre, là où on travaille, je vais quitter, je vais abandonner. Attention, parce que Dieu veut peut-être que tu flottes dans sa volonté, dans sa façon. L'arche de Noé, il n'y avait pas de voile dans le bateau. Dieu a dirigé ce bateau. Dieu était le pilote, Dieu était le capitaine, il était le chemin. Noé et sa famille demeurer. C'est ce qu'on fait dans nos vies. On demeure par la grâce de Dieu. On a appris à penser avec Dieu. Amen.